Bienvenue chez les protestants de l'église réformée du Bouclier à Strasbourg. Voici la méditation de ce dimanche.
Voici donc la lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers.
Nicodème n'a pas réussi à rester discret et anonyme. Et cette rencontre de nuit n'a ni l'évidente clarté, ni les évidences certaines de la foi. Et on s'est arrêté au verset 10. Parce que si vous poursuivez, comme l'on l'a fait jeudi après-midi, on a l'impression que Jésus entre dans un monologue très compliqué. Alors ce matin, je voudrais prendre juste trois aspects. Qu'est-ce que c'est que la nuit ? Pourquoi de nuit ? Qu'est-ce que cette double naissance ? Et puis qu'est-ce qui se passe après ? Après ces beaux échanges, ces belles paroles. Pour moi, la nuit, c'est beaucoup de choses. Peut-être des souvenirs d'enfance, de peur, d'inconnu, de méchants loups. Mais ici, j'ai l'impression que c'est d'abord une protection. Nicodème est ici le frère de toutes celles et ceux qui viennent voir Jésus la nuit parce qu'ils ont peur et qui se protègent. En effet, c'est un notable religieux et apparemment, il risque gros en rencontrant ce jeune rabbin qui vient de contester, un chapitre avant, qui vient de contester dans le temple l'ordre religieux établi, qui a renversé aussi les tables, remettant en cause certains fondements de l'économie qui fait vivre la capitale. Peut-être que Nicodème se protège. Et ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui, dans le monde, sont inquiétés à cause de leurs convictions ou de leurs engagements. Et qui doivent se faire comme clandestins de Dieu. Cela a été notre cas de huguenots il y a longtemps, ce n'est plus actuellement le cas ici et maintenant, mais c'est bien le cas dans le monde ailleurs. Et bien suivant de nuit, c'est là que, par peur, ou peut-être par anticipation, on va essayer de rencontrer. Et je me souviens que, avant les accords d'Oslo, mais bien souvent avant des avancées importantes, il y a des gens, par exemple des diplomates, qui dans de l'ombre, dans la discrétion, se rencontrent, ne disent pas trop, mais pour parler, pour préparer, bien loin des projecteurs médiatiques. Et quand on voit certaines situations actuellement, j'ose croire qu'il y a des gens comme ça qui sont de nuit. Et puis un autre aspect de la nuit, pour Nicodème, c'est peut-être aussi que nous avons du mal à témoigner au grand jour du Christ. C'est une forme de nuit aussi, la difficulté à dire ce que l'on croit et ce que l'on vit. Alors, je peux le dire ici dans un temple, dimanche matin à 10h30, parce que c'est un lieu identifié, et c'est pour cela. Mais ce n'est pas toujours évident, une évidente clarté de le dire ailleurs. Par exemple, les jeunes disent « Oh, à Sturm, quand on a 15 ans, on ne le dit pas trop ». Et ce n'est pas facile dans un camp avec une quarantaine d'ados de dire sa foi, même si on est estampillé pasteur. Et ce n'est pas facile dans un monde moderne de dire ainsi ce que l'on croit. Et parfois, c'est dans une discrétion, dans une nuit, que les choses se disent. Et puis une autre forme de nuit, c'est justement nos propres vies. Peut-être comme celle de Nicodème, avec une certaine solitude. Nicodème dit « nous ». Nous savons, mais il vient seul. Peut-être une certaine solitude dans son cheminement, dans un cheminement peut-être de doute, de souffrance secrète. Une solitude qui rejoint aussi la solitude lorsque l'on vit un deuil, ou lorsque l'on est isolé, que personne n'écoute, personne ne répond, et que Dieu lui-même semble absent. On retrouve les paroles du psalmiste et de bien d'autres témoins qui sont comme dans une nuit, dans une obscurité, de grand silence, de grande absence. Ce fameux samedi saint, entre la crucifixion et le tombeau vide, où il n'y a pas de texte, pas de récit, pas de témoignage, il n'y a rien. Des nuits où il est difficile de voir et de comprendre. Et puis, il y a une quatrième nuit, c'est peut-être la mienne, de quelqu'un qui, comme Nicodème, en sait trop, qui a déjà beaucoup cheminé, qui veut peut-être sincèrement suivre, mais qui a du mal, parce que ce n'est pas facile de renoncer à ce qu'on croit déjà savoir, de renoncer à ce qu'on croit déjà posséder. Nicodème dit le texte avec quelques petits mots, pharisien, chef, et puis on le verra un peu plus loin, a sans doute une bonne formation, une bonne théologie, une riche tradition, une identité établie, un statut social, ce qui est utile. Mais sans doute que tout cela forme aussi dans sa vie une forme de nuit. Il a du mal à rencontrer. Il a le savoir, mais il a du mal à voir. Il voudrait connaître Jésus, mais Jésus lui dit qu'il va falloir naître. Et ainsi, En Nicodème, je rencontre aussi toutes celles et ceux, dont moi le premier, qui avons peut-être trop de savoir et qui avons du mal à voir des manques, des désirs, des recherches, de l'appétit. Il faut peut-être passer par la nuit. Voilà ces quatre nuits. Et pour en sortir, comme on sort du ventre de la mère, Jésus va parler de cette naissance. Avec ce fameux malentendu joannique, en tout cas en grec, où le mot veut dire à la fois naître de nouveau et naître d'en haut. Et bien sûr, Nicodème tombe dans le panneau en disant « on ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère ». Mais c'est bien que Nicodème l'ait dit, qu'on l'ait par écrit. Parce que la parole de Nicodème, qui se moque, est aussi la reconnaissance qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas réécrire l'histoire, remonter le cours des fleuves, faire comme si. Et c'est important que dans ce malentendu puisse être exprimée cette réalité anthropologique, comme disent les commentateurs, que l'être humain est dans un temps qui se déroule et qu'on ne peut pas revenir en arrière et refaire l'histoire. Ce qu'on appelle la chair ou l'humanité. Et peut-être que pour recevoir cette autre naissance, que Jésus appelle d'en haut, ou d'eau et d'esprit, alors tout de suite on voit le baptême, pour recevoir cette autre naissance, il faut peut-être d'abord voir qu'on ne peut pas revenir en arrière et retourner dans le ventre de sa mère, qu'il faut sortir et reconnaître qu'on est déjà sorti. Dans notre champ de vie, cette naissance d'en haut signifie qu'il y a des choses qui finalement échappent à notre histoire, demeure cachée, qui se dérobe à notre emprise, et pourtant, ces choses ont un effet sur nos vies. Alors c'est vrai, comme Nicodème, nous sommes déterminés par une naissance, par une mère, un père, une histoire, une culture, une famille, un travail, une terre, des engagements. Mais en parlant de cette naissance d'en haut, Jésus rappelle que l'être humain a aussi d'autres choses qui le déterminent. Et de même que je n'ai pas choisi ma naissance, je n'ai pas choisi ma mère, mon père, ma culture, le lieu où je suis né, de même, il y a des choses dans ma vie qui m'échappent, que je ne choisis pas, mais qui me sont aussi données. Et qui déterminent sans doute ma vie autant que cette naissance il y a 53 ans. Alors Jésus rappelle cela, comme il aurait pu rappeler la manne, que le peuple reçoit dans le désert. Certes, ils ont déjà fait tout un parcours, ils sont sortis de l'obscurité de l'Égypte, ce qui est déjà pas mal. Ils ont fait tout un parcours difficile, franchi une mer. Mais quand même, chaque jour, ils ont besoin de recevoir cette naissance d'en haut pour se rappeler qu'il y a dans nos vies autre chose que du déterminisme, de l'histoire, de la culture, du travail, de la famille. Il y a cette parole de Dieu qui est aussi une naissance, comme à Noël. Alors voilà, on a beaucoup disserté là dans le groupe sur cette naissance parce que c'est fait pour ce texte. Et il y a une illustration que je trouve très belle à cette parole de Jésus. C'est une petite vidéo que vous pourrez regarder tout à l'heure. Vous tapez sur YouTube. God is a DJ. Oui, c'est le Kirchentag Dresde. God en anglais. Is a DJ. C'est un disque jockey, hein. C'est une petite histoire de 10 minutes, alors d'aujourd'hui, donc il y a un monsieur qui tombe du ciel, est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est Dieu, en tout cas c'est un disque jockey, il a toute sa sono, il n'est pas très content, Mais il y va, il arrive dans un endroit où il y a eu un malheur, un accident, alors il démonte tout, et puis on voit que c'est quelqu'un d'important parce qu'en fait, il peut remonter le temps, il peut revenir en arrière, le grand rêve de l'humanité. Alors il remonte le temps, et puis il voit que l'accident vient d'un événement qui est un ballon, qu'un enfant a perdu, qui a roulé, qui a provoqué ceci, cela, puis finalement, ben, une voiture est rentrée dans un vélo, et le cycliste passe à travers le pare-brise, etc. Alors, comme il est bon, il va remonter le temps en tournant le tourne-disque, et puis il va faire en sorte que le ballon n'aille pas dans les pattes du vélo. Et puis il referme tout, il s'en va, mais le ballon va ailleurs et provoque un autre problème, encore plus important. Cette fois-ci, c'est quelqu'un dans un fauteuil roulant qui va se faire renverser par la voiture. Alors il est embêté, il redémonte tout, il retourne le temps, et puis il refait encore un système. Et alors plusieurs fois comme ça, il essaye de retourner les événements en maîtrisant le passé. Et puis à chaque fois, c'est une catastrophe de plus en plus importante. Et alors finalement, la dernière fois, il essaye cette fois-ci de comprendre qui sont ces gens qui sont là. Il y a un monsieur avec un pistolet, il y en a avec une seringue, il y a une maman avec sa fille, il y a un monsieur handicapé avec son épouse qui le pousse, il y a un cycliste, il y a un jeune homme qui essaye de se rapprocher d'une jeune fille, il y a deux jeunes qui jouent au ballon, etc. Et puis il essaye de comprendre quelle est leur histoire, quel est leur passé, quelle est l'épaisseur de leur vie, où sont aussi leurs obscurités, c'est un passage très difficile à voir. Et puis il va laisser les gens voir autrement cette histoire du ballon. Laisser se dérouler l'histoire, mais laisser aussi apparaître toutes ces nouvelles naissances qui peuvent avoir lieu chez ces gens. Et puis ça va aller mieux, sauf qu'à la fin, une petite note d'humour, donc il remballe toute sa sono, et puis il y a la petite fille qui fait tomber sa poupée, qui se brise en deux. Et il sent que, en fin de compte, la seule personne à le reconnaître, c'est la petite fille, l'enfant. Et donc, il va quand même accepter de remonter le temps très, très vite pour réparer la poupée, puis après, il se sauve. Alors, je vous invite à regarder ce petit épisode sur la manière de voir une nouvelle naissance. Et comment se continue l'histoire ? Alors après, il y a tout un monologue assez compliqué, c'est de la littérature johannique, on a eu un peu de mal, on sent que c'est des intellectuels, ça foisonne. Mais d'une certaine manière, aussi, Nicodème disparaît de la circulation, comme si Jésus se mettait à parler tout seul. Il n'est plus là, il disparaît. Et puis il va réapparaître deux fois dans l'évangile. Une fois au chapitre 7, où au Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité religieuse de la ville, on commence à se dire qu'il faudrait arrêter Jésus. Et puis, il va prendre la parole pour dire une toute petite parole. Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ? C'est tout ce qu'il va dire. Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ? Alors peut-être qu'il fait référence à la loi civile, en rappelant que les faibles et ceux qui sont en danger sont protégés aussi par des lois, ce qui est déjà pas mal. Mais derrière le mot « loi », il y a peut-être aussi tout ce qui fait sa foi, son identité, sa tradition, ses racines, son enseignement, sa culture, sa naissance. Et puis il va poser cette phrase, c'est peut-être important de l'entendre et de voir. Et dans les termes, on retrouve quasiment la parole que dit Jésus au chapitre 1, lorsqu'il constitue son groupe de disciples, lorsque les gens qui approchent Jésus disent « Mais où habites-tu ?» Plusieurs reprises, Jésus va répondre « Venez, voyez. » Et là, Nicodème est dans cette démarche de dire « Venez l'entendre, venez le voir. » C'est peut-être déjà une étape d'un disciple. Et puis la troisième fois où il apparaît dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, il dit rien, il est avec Joseph d'Arimathée, Donc il fait partie de ces notables qui vont obtenir le corps de Jésus, ce qui est pas mal. Il n'y a pas de parole, il y a un long descriptif de ce qu'ils font, des rituels, de la myrrhe, l'aloès, des bandelettes. On sent toute une tradition de respect, beaucoup de détails, beaucoup de précisions, pas de parole. C'est la dernière fois où il apparaît, avec un geste, au moment de la mort, c'est-à-dire au moment essentiel où se joue un basculement dans l'évangile. Qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas très bien, mais il est là. Il est là pour accompagner le dernier moment de celui qui a été rejeté, du petit, de celui qui est en échec, de celui qui a été abandonné, de celui que plus personne ne regarde. Il est dans la nuit du Vendredi Saint. Il ne parle plus, il ne sait plus, il n'explique plus, mais il fait simplement ce geste d'un cadeau, un geste de sa tradition, mais qui dit une beauté, qui dit une reconnaissance, qui dit sans doute une souffrance, qui dit peut-être une naissance. On ne sait pas. On ne sait pas tout. Voilà. Alors comment continuer ? En fait, on a aussi pris ce texte pour la prochaine retraite des catéchumènes. Dans un mois, ou pendant 5 jours, on va faire un parcours avec 45 ados. Et on s'est dit, il faut qu'il passe aussi par la case Jésus, la nuit. Et nous allons leur proposer des pistes qui sont encore en réflexion avec l'équipe d'animation pour dire, mais en fin de compte, en quoi la rencontre avec Jésus est-elle une naissance ? Une naissance d'en haut. Alors on va essayer de développer 4 thèmes. L'un, c'est la famille. Alors certes, on a chacun une famille, un père, une mère, des frères et sœurs. Mais à travers la rencontre de Jésus, à travers la rencontre aussi dans l'Église, la famille s'élargit. Qui sont mes frères et sœurs ? S'il y a un grand attachement à la famille proche de sang, voire une grande prise de distance à cet âge-là, il s'agit de reconnaître, en tout cas peut-être, que tout homme et toute femme, souvent d'abord les copains et les copines, d'abord les copains, toute rencontre est aussi un frère et une sœur. Et puis un autre aspect, ça sera de ne pas laisser tomber. De ne pas laisser tomber certaines luttes. Jésus vient de se fâcher dans le temple, il va avoir un certain nombre de gestes et de paroles qui ne plaisent pas. Il y a des temps où on s'indigne, on proteste, on lutte, on s'emporte. Alors ça, à l'adolescence, on sait le faire, contester. Mais jusqu'où ? Jusqu'où ? Jésus, lui, va aller jusqu'à certaines oppositions et même jusqu'à l'isolement, jusqu'à être tout seul, jusqu'à être rejeté, jusqu'à la mort. Jusqu'où on est capable de s'engager ? Pas évident. Hein ? Et puis, ne pas laisser tomber les petits. Il y a chez Jésus comme une reconnaissance de la fragilité, une prise en compte de ce qui est petit, faible, rejeté, de ce qui est le maillon faible. Maillon faible, on l'élimine, sauf dans l'Évangile. La personne importante, centrale, c'est souvent celle qui est considérée à nos yeux comme le maillon faible. Et la mort et la résurrection de Jésus sont une manière de remettre au cœur de la vie celui qu'on considère comme le maillon faible. Le petit, le moqué, l'humilié, celui qui n'a pas les mêmes vêtements, celui qui n'a pas le même smartphone, celui qui n'est pas comme moi. Alors, celui que vous considérez comme petit, Dieu le remet au cœur de la vie. Et puis un 4e aspect sera peut-être ce geste, ce cadeau de la fin. Qu'est-ce qui nourrit vraiment ? De quoi avons-nous vraiment besoin ? Quel est le cadeau que j'aimerais recevoir ? Au-delà du téléphone, de l'ordinateur, des vêtements, d'une bonne formation, d'un bon métier, qu'est-ce qui est essentiel pour que je vive ? De quoi ai-je besoin comme naissance ou comme renaissance ? Voilà. Nicodème, un monsieur qui voulait rester discret, mais dont on a maintenant une trace, sans vraiment tout savoir. Une rencontre de nuit, une parole osée face aux autorités, et puis ce silence, mais ces gestes qui parlent à la fin. À la fin de l'évangile, mais peut-être pas à la fin pour Nicodème. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que la parole de Dieu soit pour vous l'assurance, aujourd'hui et toujours, de son amour.